cette matinée du 16 novembre 1985, nous allons nous pencher une fois de plus sur ce chapitre qui a été l'objet de votre méditation personnelle dans vos chambres et de votre partage dans vos ateliers. Notre Dieu, toi qui es notre Père en Jésus-Christ, nous voulons nous souvenir que sans toi, sans ta grâce, nous ne saurions être dignes. Et très humblement, nous venons te demander ton secours et nous croyons à tes promesses et à la puissance de ton esprit pour ouvrir nos yeux afin que nous puissions voir ces merveilles de ta loi. Nous te demandons que cette parole ait de l'autorité sur nos cœurs, qu'elle remue aussi nos consciences et que nous puissions vraiment la mettre en pratique et en la pratiquant, l'aimer comme tu veux que nous l'aimions. Car en aimant ta parole, c'est toi, ô Dieu, que nous aimerons. Et cela comme tu le désires, de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, pour qu'aussi, à l'égard de notre prochain, nous ayons un amour renouvelé et semblable au tien, pour ta seule gloire, en Jésus-Christ. Amen. Tête à tête avec le Dieu vivant, avons-nous dit. C'est le thème de cette dernière retraite de l'année. Et vous avez pu vous rendre compte en faisant votre lecture que ce Dieu vivant qui accepte un tête-à-tête avec vous n'était pas n'importe qui, mais un grand roi. C'est ainsi que vous avez certainement terminé votre lecture. « Je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées. Donc, je veux croire de tout mon cœur que vous avez eu un entretien avec un grand roi dans vos chambres. Et qu'en sortant dans vos ateliers, il y avait sur votre visage le reflet de la face de ce roi. Car, comme le dit un proverbe, c'est dans ce visage du roi que resplendit la vraie beauté. Et si vous avez pu contempler son visage, le Saint-Esprit opère en nous de telle manière que l'apôtre Paul peut dire qu'en le contemplant, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par l'Esprit du Seigneur. Voilà le vrai salon de beauté que je vous souhaite d'avoir fréquenté dans cette heure. Je ne m'en vais pas vous relire tout le chapitre. Nous allons maintenant, étant persuadés que vous en avez encore le texte en mémoire, nous allons prendre verset après verset. Le livre de Malachie est en quelque sorte le bilan et qui est fait au sujet de toute l'histoire d'Israël, puisque c'est le dernier livre de la Bible hébraïque, des prophètes. Et ce dernier livre, avant Jésus-Christ, nous apporte au fond le bilan de l'état d'Israël. Et vous savez ce que c'est qu'un
bilan, c'est un tableau qui représente l'actif et le passif d'une société à une date déterminée. Et cela, ce bilan a été fait au fond 400 ans environ avant Jésus-Christ. Et notre pensée profonde était que nous aussi, individuellement, à la fin d'une année, il était peut-être bon qu'à la lumière de la parole, nous fassions aussi le bilan de ce qu'a été notre vie jusqu'à aujourd'hui. J'ignore votre âge, que vous soyez jeune ou que vous soyez âgé, vous êtes appelé par l'Esprit de Dieu en ces jours à faire un bilan tout à fait personnel de ce qu'a été votre vie et aussi de ce que Dieu a été pour vous au cours de vos années. Car ne croyez pas que Dieu a commencé à s'occuper de vous depuis le jour où vous vous êtes converti à lui. Il s'occupait déjà de vous avant votre conversion, quand vous étiez encore dans le monde et égaré par les convoitises du monde et dans les plaisirs du monde qui, bien souvent, vous font honte ou vous donnent la nausée en pensant à certaines choses que vous avez pu pratiquer d'autrefois. Mais malgré tout cela, Dieu s'occupait quand même de vous. Quand vous étiez brebis errante, suivant votre propre chemin, Dieu vous aimait déjà. Et j'irai même plus loin. Quand nous lisons l'Écriture, nous apprenons que Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. C'est incroyable pour notre raison humaine, et pourtant, c'est de cela qu'il s'agit. Et alors, ça donne à votre vie quelque chose de tout à fait nouveau. Quand vous apprenez que vous avez eu une place dans la pensée de Dieu avant la création de la terre, avant la création du cosmos, de tous ces mondes, vous aviez une place de choix personnel dans le cœur du Dieu tout-puissant, de ce grand roi. Alors voyons en quel temps donc ce message que nous transmet Malachie fut donné. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. C'est peut-être pour vous un nom pas très habituel, pas très courant. Est-ce qu'il y a un Malachie parmi nous? J'espère que vous êtes tous des Malachies. Parce que Malachie veut dire messager ou ange. J'espère que ça vous dit quelque chose. Ce Dieu qui vous a tellement aimé désirait faire de vous, au fond, des messagers. Peu importe qui était Malachie, ce que nous savons de lui, c'est que son nom voulait dire messager. Et que ce qu'il nous a donné dans ce chapitre ne venait pas de lui. Il était simplement un instrument dans la main de Dieu pour nous communiquer, pour communiquer à quel peuple? Le peuple d'Israël. Malachie était l'instrument de Dieu, choisi par Dieu, pour communiquer à ce peuple ses pensées. Car au fond, l'oracle, qu'est-ce que ça veut dire, un oracle? C'est une parole qui vient vraiment de Dieu, de la divinité. Ce n'est pas une parole humaine, c'est une réponse de Dieu. C'est une parole de l'Éternel. Et Malachie, peu importe si nous n'avons pas de grands renseignements, on n'en a aucun au fond à son sujet, ça importe peu. Ce qui est essentiel, c'est qu'il n'a pas parlé de lui-même, mais qu'il a transmis le message. À qui ? À Israël. Et on dira, oui, mais Israël, enfin, alors c'est bon pour les Juifs d'aujourd'hui. Non, Israël, comme l'a si bien compris le poète allemand Goethe, l'histoire d'Israël, disait-il, c'est notre histoire. Et au fond, toute cette histoire d'Israël nous concerne, comme du reste tout l'Ancien Testament, que vous lisez peut-être cité, et qui pourtant nous a été laissé pour notre instruction. Et c'est pourquoi nous aimons tant l'Ancien Testament et que nous nous laissons instruire par l'Ancien Testament, parce que tout ce qui a été écrit dans ce livre qu'on appelle l'Ancien Testament l'a été pour que nous puissions apprendre à nous connaître nous-mêmes. Pas simplement à connaître un autre peuple qui a vécu dans un autre âge ou qui vit de nouveau maintenant dans sa terre, mais qu'au travers d'Israël, tous les hommes apprennent à connaître ce qu'ils sont et ce qu'est leur cœur. Et toute cette histoire d'Israël, qui est consignée dans la loi, les psaumes et les prophètes, a pour but de nous montrer une chose, qu'il est peut-être humiliant de reconnaître, c'est que l'homme, créature de Dieu, mais créature libre, s'est révolté constamment contre son Créateur et confond son cœur, comme le dit le prophète Jérémie au chapitre 17e et au verset 9 de son livre, le cœur de l'homme est incurable et désespérément malin. Et il est ajouté, qui le connaît ? Qui le connaît ? Eh bien, immédiatement, il y a la réponse, moi, l'Éternel. Et toute cette histoire de l'Ancien Testament ne prouve que mon cœur est désespérément malin, qu'il est réellement mauvais, et que ce que Jésus nous a révélé du cœur de l'homme quand il est venu sur la terre était l'exacte vérité. Il a dit dans le chapitre 15 de Matthieu, comme aussi dans le chapitre 7 de Marc, que ce n'étaient pas les choses qui entraient dans la bouche qui souillaient l'homme, mais que c'étaient les choses qui sortaient du cœur. Et il y a toute la liste des vices qui sont commis par les hommes et qui ont leur source, non pas dans le monde, mais dans nos cœurs. Et si le monde est souillé, c'est parce que mon cœur est souillé. C'est moi qui souille le monde. C'est l'homme qui souille le monde. Car le monde, en tant que création de Dieu, est une chose merveilleusement belle. Dieu a créé les cieux et la terre, et il a créé toutes ces choses d'une façon parfaite. Les cieux racontent la gloire de Dieu, l'étendue d'en connaître l'ouvrage de ses mains, et plus nous étudions la nature, plus nous étudions la création, plus nous sommes poussés à adorer, non pas les choses que Dieu a créées, mais celui qui les a faites d'une façon si parfaite et avec une telle intelligence, et une telle puissance. Alors vous me direz, donc, quand Malachi, qui veut dire le messager, a reçu ces paroles, c'était donc 400 avant Jésus-Christ, c'était donc au 5e siècle avant Jésus-Christ, après le retour d'un résidu juif de la captivité de Babylone et après la reconstruction du temple qui avait été réédifié à Jérusalem. Vous savez que à cause des péchés d'Israël, les prophètes avaient annoncé la ruine de Jérusalem et la ruine du temple. Mais on n'a pas cru cela, mais c'était pas possible que Dieu détruise son temple et la ville qu'il avait choisie. Et pourtant, oui, c'est possible. Si nous ne vivons pas dans la crainte du Seigneur, on peut bien dire, mais nous avons le temple de l'Éternel, c'est le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Eh bien, ce n'est pas de dire cela, mais qui va empêcher les malheurs de fondre sur des hommes pécheurs et qui transgressent la parole. Certes, c'était le temple de l'Éternel, le temple de Salomon, mais quand les descendants de Salomon ont été de plus en plus corrompus, eh bien le désastre est venu. Mais ce qui avait été annoncé s'est donc parfaitement accompli, littéralement accompli. Le peuple a été emmené en captivité, mais une promesse avait été faite par Dieu, c'est que au bout de 70 ans de captivité, il susciterait un homme, et c'était même un païen, pour accomplir ses desseins et faire remonter un certain nombre de personnes de la captivité pour reconstruire le temple. Et alors là, il faudrait que vous lisiez, pour bien comprendre dans quel temps vivait Malachie, que vous relisiez le livre d'Esdras, le livre de Néhémie, et les deux prophètes qui précèdent Malachie, et qui sont Agé et Zacharie, qui ont exercé leur ministère durant la reconstruction de ce temple. En 536, donc, par un édit d'un roi païen, Cyrus, une catégorie de juifs en captivité sont remontés volontairement à Jérusalem. Et nous apprenons par le livre d'Esdras que le temple a été replacé sur son fondement, on a réédifié le temple, bien sûr moins glorieux que celui de Salomon, mais le temple a été réédifié sur son fondement. L'autel qui avait été détruit a été placé aussi sur ses bases, et un peu plus tard, avec Néhémie, les murailles de Jérusalem ont même été reconstruites, de sorte que au temps de Malachie, le culte mosaïque, le culte qui était prévu selon les ordonnances de Moïse, que Dieu avait donné à Moïse, se faisait, se pratiquait. Donc il y avait eu un réveil, il y avait eu une restauration, qui est quelque chose de tout à fait historique. Mais hélas, ce peuple qui venait de connaître de si grandes délivrances, qui venaient de connaître l'amour infini de Dieu, qui les avait restaurés, qui les avait fait revenir de la captivité dans leur patrie, qu'est-ce qu'ils faisaient de nouveau? Ils s'abandonnaient à toute espèce de péché et de transgression. Et c'est à ce peuple-là que Malachie s'adresse quelques 400 ans avant la venue de Jésus-Christ. Et quelle est la grande affirmation que vous avez dans le verset 2? Je pense que cela vous a arrêté et que vous avez compris que ce n'était pas seulement d'Israël qu'il était question, mais de chacun de nous, quel que soit l'état dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, 16 novembre 1985. Qu'est-ce que Dieu vous a dit à vous? Je vous ai aimé, oui, mais selon d'autres versions, et j'ai ici Chouraki de Jérusalem qui est très fidèle, c'est « Je vous aime », comme aussi la version dans français courant, « Le Seigneur déclare à son peuple « Je vous aime ». C'est ça qui est vrai, hein. Mais en même temps, c'est aussi « je vous ai aimé ». Donc, vous voyez, quand on parle de différence en traduction, il faut les mettre ensemble, il ne faut pas les opposer. Je vous ai aimé, ça c'est tout le passé, hein. Souvenez-vous des bienfaits de Dieu, je vous ai aimé. Est-ce que vous en êtes conscient? Que Dieu vous a aimé, je vous ai aimé. Mais ce qui est merveilleux, c'est pouvoir aussi dire que je sais qu'il m'aime dans le temps présent. Je vous aime. Voilà la déclaration de Dieu que vous devez recevoir en plein cœur. Le Dieu Tout-Puissant, ce roi qui vous a donné une audience, qui vous donne un tête-à-tête, qui vous permettra de dialoguer avec lui pendant toutes ces heures, eh bien, ce que vous devez savoir de lui, c'est qu'il vous aime. Pas parce qu'il vous trouve vraiment aimable, hein. Pas parce qu'il trouve en vous des choses extraordinaires, mais parce qu'il trouve en son propre cœur le motif de vous aimer. Parce que dès que vous donnez la raison de votre amour, c'est que vous n'aimez plus, hein. Parce que l'amour, il ne s'explique pas. On aime, je vous aime. Il trouve dans son propre cœur le motif de nous aimer indépendamment de ce que nous sommes. Alors, si vous vous replacez dans ces lectures complémentaires de Jérémie, d'Ésaïe, d'Esdras, de Néhémie, d'Ézéchiel et de Daniel, eh bien, comme aussi d'Agée et de Zacharie, vous saurez combien Dieu a aimé ce peuple d'Israël, et c'est une image, son amour pour Israël, de l'amour qu'il a pour vous, pour chacun de nous. Alors maintenant, quand vous me dites, mais que peut nous apporter un tel livre à nous qui vivons 15 ans avant l'an 2000, ou quelques années, quelques 1950 ans après Jésus-Christ? Eh bien, nous sommes convaincus que ce livre, si vous le méditez, il peut répondre à vos besoins présents. Parce que justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous croyons que Malachie n'a pas parlé de lui-même, mais que, comme le dit Saint Pierre, l'apôtre Pierre, au chapitre 1er de sa deuxième épître, les prophètes qui ont écrit n'ont pas écrit d'après leurs propres idées, mais ils ont écrit, poussé par le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi ces 55 versets de Malachie, nous les recevons comme la parole de Dieu que Pierre déclare être vivante et permanente. C'est pour nous aujourd'hui. Nous croyons que cette parole est normative pour tous les temps, alors que justement la figure de ce monde passe, et sa convoitise aussi, nous dit l'apôtre Jean au chapitre 2 de sa première épître, verset 17. Et ce que nous savons aussi, c'est que Jésus, lorsqu'il était sur la terre, a revêtu de son autorité tout l'Ancien Testament. Jean 5, verset 39, il dit « Sondez les Écritures, ce sont elles qui parle de moi. » Et Jésus lui-même a déclaré au chapitre 24 de Matthieu que le ciel et la terre passeront, mais que ses paroles ne passeront point. Et un dernier mot que Paul a affirmé à plusieurs reprises, Romains chapitre 15 verset 4, que tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction. Et dans 1 Corinthiens 10, verset 11, il nous dit que cela doit nous servir d'exemple à nous qui sommes parvenus dans les temps modernes. C'est quoi les temps modernes, selon l'Écriture? C'est les derniers temps. Les temps modernes, c'est la fin des temps. Eh bien, nous y sommes parvenus. Et alors, nous avons besoin, justement, dans ces derniers temps, d'avoir une instruction sûre, une instruction solide. Alors, ce que nous dit encore Paul, dans son testament spirituel, en écrivant à son enfant dans la foi Timothée, il dit que toute l'Écriture, donc tout l'Ancien Testament, pas seulement le Nouveau, mais tout l'Ancien Testament, et j'insiste sur ce fait, toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour quoi faire? Pour enseigner, une chose, on a besoin d'être enseigné. Pour convaincre, on a besoin d'avoir des convictions, je dis pas simplement des opinions, mais des convictions. Pour corriger, pour quelle raison? Parce qu'on a dévié. En une foule de choses, on doit être corrigé, nous laisser corriger, nous laisser redresser. Et pour nous instruire dans quoi? Dans la justice. Or, vous savez très bien qu'aujourd'hui, il n'y a plus de justice. Eh bien, c'est par la parole de Dieu que nous pouvons être instruits dans la justice, afin que l'homme de Dieu, parce que c'est ça que Dieu voudrait, pas simplement des sauvés, tous ces sauvés qui ne donnent pas un témoignage au Seigneur, s'empêche les gens de croire, s'empêche le monde de croire. C'est pas de dire je suis sauvé, et puis les autres sont perdus, qui va faire avancer le royaume de Dieu. C'est que, au lieu de dire je suis sauvé, vous deveniez des hommes et des femmes de Dieu sur la terre. Qu'on vous reconnaisse, non pas comme des gens qui disent moi je suis sauvé, puis toi tu es perdu. C'est pas ça l'évangile, hein. Parce que vous n'avez pas le droit de dire ça. Que vous devez être, c'est des hommes et des femmes dans lesquels le monde reconnaît quelque chose de ce Dieu auquel ils ne veulent pas croire. C'est par vous, c'est par votre témoignage pratique, par votre vie, que le monde pourra croire que Dieu existe. C'est pas par nos réunions d'évangélisation. Vous pourrez multiplier les efforts d'évangélisation pour amener les gens à croire que Dieu existe, il suffit qu'ils nous regardent en dehors de nos heures de réunion pour se dire, ben oui alors, je les renvoie. Hein. Dieu, le Dieu dont ils ont parlé, où le voit-on dans leur vie? Ils en parlent, mais comment est-ce qu'ils en vivent de ce Dieu? Et voyez-vous, c'est cela le grand réveil que Dieu veut de chacun de nous, que la parole écrite forme des hommes et des femmes de Dieu. Pour les rendre propres à quoi? À toute bonne œuvre. Et qui est-ce qui veut faire l'œuvre en chacune de nos vies? C'est Dieu. C'est pas nous qui pouvons faire l'œuvre de Dieu. Je ne peux pas faire l'œuvre de Dieu par mes propres efforts. Et quand je prétends que je peux quelque chose, eh bien je prétends que je suis plus que Jésus-Christ. C'est vrai ou c'est faux? Car qu'est-ce que Jésus disait, lui? Qu'il ne pouvait rien faire de lui-même. Il attribuait tout à son Père. De lui-même, il ne pouvait rien faire. Or, aujourd'hui, nous avons un tas de prétentieux dans l'œuvre de Dieu qui pensent qu'ils vont changer eux-mêmes le monde par leurs efforts. Par nous-mêmes, par nos méthodes, par nos efforts, nous ne pouvons rien faire. Mais que nous faut-il pour que, tout à coup, nous puissions avoir l'intelligence de comprendre cela? Nous ne pouvons rien faire. Le monde est en train de se déchristianiser, malgré tous les efforts d'évangélisation. Eh bien, que le Seigneur parle à nos cœurs et que nous devenions des hommes et des femmes qui se laissent faire par Dieu. Je ne le soulignerai jamais assez. Servir le Seigneur, ce n'est pas faire des choses pour Dieu, c'est se laisser faire par Dieu. Dieu veut faire son œuvre. Et pour faire son œuvre dans les cieux, il emploie les anges. Pour faire son œuvre sur la terre, il voudrait employer des hommes et des femmes qui sont tous serviteurs et servantes plein temps à l'œuvre du Seigneur. Comprenez-le bien. Quel que soit votre métier, quelles que soient vos occupations, vous êtes tous plein temps à l'œuvre du Seigneur. Car tout ce que vous avez à faire dans le travail quotidien, quel que soit votre métier, vous avez à le faire de cœur comme pour le Seigneur. Ces 8, 12 ou 14 heures, qui sont peut-être des heures où vous faites des travaux manuels, ou des choses tout à fait pratiques, ou des choses dont le monde a besoin, dont nos concitoyens ont besoin, si vous les faites pour le Seigneur, c'est autant que si vous aviez prêché. Parce que c'est votre vie qui est une prédication. Et si nous agissons de cette manière-là, le monde que nous voudrions atteindre, c'est le monde qui va nous questionner pour nous demander pourquoi nous ne faisons pas comme les autres. Pourquoi nous ne sommes pas comme les autres. Et c'est votre vie qui est le plus grand traité d'évangélisation. C'est votre vie qui doit questionner. Et alors, vous serez prêt à répondre avec douceur et crainte de la raison de l'espérance qui est en vous. Et on s'apercevra que vous n'êtes pas habité par une idée, par une idéologie, mais que vous êtes habité par quelqu'un. Par quelqu'un. Que Dieu n'est pas au fond du ciel, mais qu'il est au fond de votre cœur. Et que s'il est au fond de votre cœur, comme votre cœur expédie le sang jusqu'aux extrémités de vos membres, ainsi Dieu influence tout votre comportement, vos regards, votre oui, votre manière de parler, votre manière d'aimer, de servir et de marcher sur la terre. Voilà ce que le Seigneur nous donne par la bouche de l'apôtre Paul, est propre à toute bonheur. Et en cette fin d'année, comme nous le disions tout à l'heure, nous croyons que le livre de Malachie, dans le tête-à-tête qu'il va nous permettre d'avoir avec ce grand roi, peut avoir une influence merveilleuse pour ce qui nous reste à vivre. Parce que le passé, c'est le passé. Nous pouvons nous juger de notre passé, mais nous ne voulons pas porter notre passé. Dieu ne vous demande pas de le porter. Il vous en décharge. Et nous voudrions que par le Saint-Esprit, chacun de vous ici soit déchargé de son passé. Vous n'allez pas repartir avec votre passé. Que votre passé, vous puissiez le laisser à la croix, entre les mains du Seigneur, il est capable de faire infiniment au-delà de ce que vous pouvez espérer et penser. Mais alors, maintenant, c'est les jours qui viennent qui vont être tout éclairés par ce message du Seigneur. Et je reviens à l'affirmation de ce premier verset, du verset 2, « Je vous ai aimé. » Je vous ai aimé. Et ça, méditez là-dessus. Est-ce que vraiment il m'a aimé? Je vous ai aimé. Et comme il l'a dit aussi, « Je vous aime. » Voyez-vous, c'est le centre du message divin. Dieu est amour. 1 Jean 4, verset 8. Dieu est amour. Et c'est cela que nous devons faire connaître au monde, que nous sommes de ceux qui croyons à l'amour de Dieu. Et que savons-nous de cet amour de Dieu? Ben, vous allez tous me réciter Jean 3, verset 16. Hein? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Est-ce que ça vous dit encore quelque chose? Afin que quiconque, est-ce que ça vous concerne? Oui. Croit en lui, mais est-ce que nous croyons en lui? Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que nous savons ce que c'est que cette vie éternelle? La vie éternelle, disait Jésus dans sa prière à son Père, c'est qu'il te connaisse. Hein? Voilà ce que c'est que la vie éternelle. Alors, vous voyez le sens de ces retraites, Mahanaïm, c'est de connaître Dieu. C'est ça la vie éternelle, c'est pas de connaître des vérités, mais c'est de connaître une personne. Une personne qui nous deviendra de plus en plus chère. Une personne qui établira son sanctuaire dans notre cœur. Le sanctuaire de Dieu n'est pas au fond du ciel. Les aimables demeures de la maison du Père ne sont pas retirées dans la lumière inaccessible. Les aimables demeures de la maison du Père doivent être dans votre cœur. Le sanctuaire de Dieu, c'est notre cœur. Et dans ce sanctuaire, il y a plusieurs demeures. Mais voilà, est-ce que vous l'avez laissé entrer dans tous vos appartements intérieurs? Est-ce que vous avez donné les clés de tous vos appartements au Seigneur? Est-ce qu'il a droit de regard sur toute votre vie? Le sanctuaire de Dieu, c'est dans notre cœur. Voyez-vous, il est dit qu'il est le Dieu haut, élevé et saint, qu'il habite la lumière inaccessible, c'est vrai, cela aussi. Mais qu'il habite dans le cœur de celui qui est humilié, contrit et qui tremble à sa parole. C'est là que Dieu aime habiter et veut manifester son amour. Donc, vous connaissez la déclaration d'amour de Dieu qu'il a tant aimé le monde. Mais est-ce que, comme l'apôtre Jean nous le dit dans le chapitre 4 de sa première épître, que je vous invite à lire et à méditer, Jean nous dit, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Nous l'avons connu et nous y avons cru. Et nous y avons cru. Et qu'est-ce que c'est que cet amour que Dieu a pour nous et que nous avons cru, verset 16 du chapitre 4 de la première épître de Jean, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour, où demeure-t-il? Il demeure en Dieu. Hein? Il est déjà dans le ciel, si on peut dire ainsi. Hein? Il demeure en Dieu, mais aussi Dieu demeure en lui. Dieu est où? Sur la terre. Hein? Dieu est sur la terre. Il demeure en lui. Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Et vous pouvez lire plus loin ce qui est écrit. Alors, si nous savons cela, et si l'amour de Dieu, si Dieu lui-même habite en nous par le Christ, qui est l'amour de Dieu, qui est l'amour de Dieu, c'est le Christ, c'est son Fils, comme l'amour d'une mère, c'est son enfant, l'amour de Dieu, c'est son Fils. Et l'amour de Dieu doit être, pas à côté de nous ou avec nous, mais en nous. Le Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Hein? Alors, est-ce que vous dites maintenant, après cette déclaration de Dieu, en quoi nous as-tu aimé? Est-ce que ça vous est venu à l'idée de vous dire ça? Vous voyez l'ingratitude de ce peuple d'Israël. Eh bien, aujourd'hui, Dieu s'adresse à notre conscience. Alors, en quoi nous as-tu aimé? L'apôtre Jean, lui, qu'est-ce qu'il répondait? L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que lui a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Voilà en quoi consiste l'amour de Dieu. Que nous vivions par lui. Par qui est-ce que vous vivez? Quel est le moteur de votre vie? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est le Seigneur? Ou bien est-ce que c'est une idée? Et cet amour consiste non point en ce que nous ayons aimé Dieu. Ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de toi. Et c'est cela qui est rassurant. Ça ne vient pas de vous. Ça vient de lui. Alors laissez-vous faire. Cet amour consiste non point en ce que nous ayons aimé Dieu. On a transgressé sa parole. On ne l'a pas aimé. Mais en ce que lui nous a aimé et a envoyé son Fils comme quoi? Comme victime expiatoire pour nos péchés, pour que nous ne vivions plus dans cette atmosphère du péché, dans ce souvenir de nos péchés qui nous dépriment et qui nous paralysent, qui nous ruinent. Eh bien, j'en peux dire en quoi consiste l'amour de Dieu. Et nous, nous avons besoin de savoir en quoi consiste l'amour de Dieu. Et Dieu lui-même, si je lis au chapitre 5 des Romains, il est dit que Dieu lui-même prouve ou constate son amour qu'il a envers nous, en quoi? En ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors quand vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Ben, Dieu dit, moi je constate l'amour que j'ai eu pour vous. C'est que, quand vous étiez encore pécheur, quand vous étiez encore loin de moi, le Christ, mon Fils, que j'ai envoyé, est mort pour vous. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Que le Christ soit mort pour vous. Ou bien est-ce que vous dites, oh ben ça c'est une belle théologie, belle affaire, hein, je suis sauvé. Christ est mort pour moi, je suis sauvé. C'est pas ça. C'est pas ça. Quand on réalise ça, il est mort pour moi. Il est mort pour moi. Mais ce qu'il a dû m'aimer, encore pour un homme de bien, quelqu'un se résoudra à mourir. Mais justement, nous, nous étions des impies. Alors dirons-nous encore, en quoi nous as-tu aimé? Alors, là vous comprendrez ce qui est expliqué, la réponse de Dieu. Vous dites en quoi nous as-tu aimé? Mais Ésaü, n'était-il pas le frère de Jacob, dit l'Éternel? Cependant, j'ai aimé Jacob, et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ses montagnes une solitude, j'ai livré son héritage au chacal du désert. Si Édom, comme je vous le disais, c'est le pays d'Ésaü, si Édom dit, ou son peuple dit, nous sommes détruits, nous relèverons nos ruines, ainsi par l'Éternel des armées, qu'ils bâtissent, je renverserai. Et on les appellera pays de méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Vos yeux le verront, et vous direz, grand est l'Éternel par-dessus les frontières d'Israël. Alors, là, il nous faudrait retourner dans cette histoire des patriarches et essayer de comprendre ce que l'apôtre Paul nous dit aussi dans les Romains, où il reprend ce texte de Malachie, que Dieu dit qu'il a aimé Jacob et qu'il a haï Ésaü. Alors, immédiatement, qu'est-ce que vous dites, vous, avec votre mentalité critique? Dieu n'est pas juste. Ah, Dieu n'est pas juste. Non, il est juste. Car quand est-ce qu'il est dit que Dieu a haï Ésaü? C'est pas au début. C'est 400 ans avant la venue de Jésus-Christ. Donc, Ésaü avait manifesté ce qu'il était. Il n'y a pas de prédestination à la perdition. Il y a une prédestination à la gloire. Et ce que nous devons tous reconnaître, c'est justement que Ésaü, en lui-même, qu'est-ce qu'il était comme fils de Rebecca? Il était l'aîné. Hein? Il était l'aîné. Souvenez-vous toujours de cela. Ésaü était l'aîné. Et il était très beau, il était fort, il était velu, il avait des poils. Hein? C'était pas un homme sans poils, lui. Il était fort. Hein? Il était vraiment mâle. Bon. Il était l'aîné. Mais Dieu avait établi certains droits. Et comme aîné, il avait le droit d'avoir la plus grande partie de l'héritage de son père. C'était un droit divin. Dieu est libre de faire ce qu'il veut, puisqu'il est Dieu. Vous ne pouvez pas discuter avec Dieu. Alors, Ésaü, donc, savait qu'il était l'aîné. Il connaissait aussi la loi de son créateur, de son Dieu, qu'Isaac, certainement, lui avait appris à la suite de l'enseignement de son propre père, Abraham. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait, cet Ésaü, qui était certainement, à la vue humaine, plus sympathique que Jacob. Jacob, c'était le chouchou de sa maman. Il aimait faire la cuisine, être avec sa mère, un peu dans les jupes de sa mère. Mais ce Jacob, qui n'est peut-être pas très sympathique à première vue, on irait plutôt avec Ésaü, bien, ce Jacob, il y avait quand même quelque chose qui le retenait. C'est que les promesses de Dieu, elles avaient du poids pour lui. Et il regrettait au fond de n'être pas l'aîné. Il aurait voulu avoir ce droit d'aîné. Et cette bénédiction de Dieu. Parce qu'il y croyait à cette bénédiction de Dieu. Or, Ésaü, le grand chasseur devant l'Éternel, lui, s'en moquait éperdument. Bon, Dieu a dit ça, mais un jour qu'il était très fatigué, qu'il revenait de la chasse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a méprisé son droit d'aîné. Il y avait là un potage de lentilles que son frère Jacob avait préparé, et il lui dit, donne-moi de ce roux-là, donne-moi de ce plat-là. Et puis Jacob, qui n'est pas stupide, elle lui dit, je veux bien te le donner, mais alors donne-moi ton droit d'aîné. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Le droit d'aîné, qu'est-ce que ça peut me foutre? Le droit d'aîné, pensez donc. Ça arrangera plus tard. Il a méprisé son droit d'aîné. Et alors, quand l'âge vient et que les choses doivent quand même se passer, le père Isaac, qui a une préférence pour son fils, veut bénir son fils, malgré quoi? Malgré une promesse qui avait été faite à Rebecca, une prophétie précise, où Dieu avait révélé à Rebecca qu'elle avait deux enfants, quand elle a passé la... Comment est-ce que vous appelez ça? L'échographie, enfin, ça se faisait déjà. On lui a dit qu'elle aurait deux enfants et que le plus jeune, le plus vieux, sera asservi au plus petit. Et ça, elle le savait. Elle l'avait enseigné aussi à Jacob. Jacob savait qu'il y avait une promesse qui était faite pour lui et il y croyait. Mais alors, les moyens que sa mère et lui-même ont employé, ne sont pas à suivre. Comprenez-vous? Mais ce que nous voyons chez Jacob, c'est que quand même, il croyait ses promesses de Dieu. Ésaü s'en est moqué. Puis il a fait autre chose, Ésaü. Dieu avait dit qu'il désirait que les enfants du patriarche Abraham épousent des femmes de leur famille, de leur milieu, des femmes croyantes. Qu'est-ce qu'il a eu à faire? Il s'est moqué de ça. Il a épousé des femmes païennes, transgressant la loi du Seigneur. Et puis ensuite, quand vraiment la bénédiction lui a été ôtée et qu'elle a passé à Jacob, qu'est-ce qu'il a eu dans son cœur pour Jacob? De la haine, et il a voulu le tuer. Bien sûr, il y a eu réconciliation après. Mais dans la suite, eh bien, nous voyons que les descendants d'Ésaü ont toujours eu en haine le peuple d'Israël, les descendants de Jacob. Alors, je résume tout cela en vous disant, Dieu est libre dans ses choix. Pourquoi vous êtes sauvés maintenant? Pourquoi? Parce que Dieu vous a aimé. Est-ce que nous méritions le salut? Non. Nous étions tous perdus. Mais dans sa grâce, Dieu nous a sauvés. Vous le récitez assez souvent, vous êtes sauvés par grâce. Alors vous me dites maintenant, en quoi nous as-tu aimé? Parce que Ésaü, il lui dit plus tard pourquoi il n'a pas eu la bénédiction. Il a même pleuré devant son père. Il a réclamé la bénédiction de son père. Mais est-ce qu'il a pleuré sur son péché d'avoir méprisé le droit de Dieu? Non. Il a pleuré sur la bénédiction qu'il avait perdue. Mais il n'a pas pleuré sur son péché. Et c'est pourquoi il est dit qu'il était un profane. Il ne s'est pas soucié de Dieu. Il a eu la même éducation que Jacob. Jacob était retors, Jacob était un type tordu, un garçon peut-être difficile, menteur, trompeur, c'est vrai, mais quand même, il reconnaissait la parole de Dieu. La parole de Dieu avait un effet sur son cœur. Tandis que Ésaü, malgré toutes ses qualités naturelles, il ne se souciait pas de Dieu. Il pensait qu'il arriverait lui-même à ses fins par ses moyens. Alors, c'est là toute l'histoire de Jacob et d'Ésaü. Et pour nous, c'est la question merveilleuse de la prédestination que nous l'apprenons une fois que nous sommes convertis, une fois que nous avons dit notre oui à Dieu. Mais ce brave Jacob qui a eu la bénédiction, qui a été aimé du Seigneur, il n'a pas été sans souffrance. Lisez un peu sa vie. Voyez un peu par quoi il a passé. Ce trompeur, il a dû être trompé. Hein? Il a été lui-même trompé par Adam. Dieu a fait Dieu a fait son éducation. Alors, essayons d'examiner ces vies. Pourquoi nous sommes bénis de Dieu et puis pourquoi d'autres ne le sont pas? Et c'est pas parce que nous sommes meilleurs, mais c'est parce que nous voulons croire à la parole de Dieu. Et l'histoire d'Édom vous le montre, hein. Le royaume d'Édom a été complètement détruit. Ils ont essayé de le reconstruire, et puis il n'y a pour, malgré tout, que des ruines. Tandis que Jacob, malgré tout, qu'est-ce qui existe maintenant? Un peuple qui s'appelle Israël. Alors, la parole de Dieu est claire. Hein? Mais quant à Édom, on peut aller visiter les ruines de Pétra, mais Édom n'est plus un peuple. Alors, verset 5, « Vos yeux le verront. » Est-ce que vous le voyez? Que c'est vrai? L'amour de Dieu pour Jacob? « Vos yeux le verront et vous direz, grand est l'Éternel des armées par-delà les frontières d'Israël. » Ça ne veut pas dire que le pays d'Israël n'aura plus d'épreuves, mais il y aura encore des grandes choses qui se feront et qui seront connues par-delà les frontières d'Israël, nous l'espérons jusqu'au Québec. Alors, verset 6. J'espère que vous avez répondu vous-même à cette question. En quoi nous as-tu aimé? Et que vous avez compris pourquoi Ésaü n'a pas été aimé par Dieu? Parce qu'il a méprisé son droit d'aînesse, parce qu'il a manqué la bénédiction, il a eu de la haine contre son frère, il a pris des femmes étrangères, ses descendants ont en haine la postérité de Jacob, ils se sont opposés au passage d'Israël qui était sorti de la captivité. Vous n'avez qu'à relire tout cela et vous verrez pourquoi. Dieu qui ménageait même Ésaü a eu en haine Ésaü. Ils se sont réjouis du malheur des Juifs. C'est le livre du prophète Abdias qui vous montre que quand les Juifs ont été déportés, eh bien, Édom, les descendants d'Ésaü, se réjouissaient. Ils se réjouissaient. Et si tu te réjouis du malheur de ton frère, tu risques d'être sous la malédiction de Dieu. Ne te réjouis pas du malheur de ton frère. Alors, de notre côté, nous, quand nous disons à Dieu, quand il nous dit « je vous ai aimé » ou « je t'aime », quand nous disons « en quoi nous as-tu aimé », ça montre l'ingratitude de mon cœur, l'oubli de ses bontés, que je ne vois plus la misère dans laquelle je me trouvais, que je suis devenu insensible, endurci, que je manque de reconnaissance, que je suis même indifférent, ou que je ne pense qu'à mes déceptions. J'avais espéré ceci, j'avais espéré cela, puis ces choses ne se sont pas réalisées. Alors je dis, en quoi nous as-tu aimé? Parce que justement, ce que Israël espérait en étant retourné de la captivité, eh bien, ne se réalisait pas comme il le voulait, alors il trouvait que Dieu ne les avait pas aimés. Mais le Seigneur va s'expliquer, verset 6. Un fils honore son père, un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi, dit l'Éternel des armées. Qui est Dieu pour vous? Qu'est-ce que vous avez pu noter? Qu'est-ce qu'il vous dit ici? Qu'est-ce qu'il est? Il est Père. Hein? Vous croyez que Dieu est Père? Alors, s'il est Père, où est l'honneur qui m'est dû? Est-ce que nous avons honoré notre Père? C'était le commandement de la loi de Moïse. Honore ton Père et ta Mère. Maintenant, est-ce que Dieu est Maître? Oui. Alors, s'il est Maître, où est la crainte qu'on a de moi? Parce que si nous avons un maître, nous devons le craindre. Et qui est-ce qui parle? C'est toujours l'Éternel des armées. 8 fois dans ce chapitre, il est appelé ainsi, l'Éternel des armées. C'est-à-dire le Dieu de l'univers tout entier, des armées célestes, des armées du ciel, comme de tous les éléments qui forment l'univers. Tout cela, ce sont les armées du Seigneur. Même les sauterelles sont appelées les armées du Seigneur. Il a la haute main sur tout. Ce n'est pas simplement un terme militaire que vous devez voir là, mais l'Éternel des armées, c'est le Dieu qui règne sur toutes choses. Alors, vous l'appelez Père, mais est-ce que nous lui rendons l'honneur auquel il a droit? Parce que l'Éternel a des yeux. Et il prétend qu'on méprise son nom. Voilà donc une seconde affirmation de Dieu. Il nous dit qu'il nous a aimés. Nous disons en quoi nous a-t-il aimés. Maintenant, il nous dit qu'il est maître, qu'il est père. Puis, il demande quel honneur nous lui avons donné. Et nous répondons en quoi avons-nous méprisé son nom. Donc, on n'est pas conscient. Alors, Dieu doit souligné par la bouche de Malachie, ce qui se faisait donc dans le culte restauré. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Le mot aliment est employé pour le mot sacrifice, des animaux impurs. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? Voilà la troisième fois que nous posons une question à Dieu. Nous avons l'air d'être en conflit avec Dieu. Mais Dieu répond, c'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. La table de l'Éternel, c'est quoi ici? C'est une table? C'est l'autel. C'est l'autel où l'on offrait les sacrifices, hein, mais qui est appelé la table. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient là? Qu'est-ce qu'ils offraient, le peuple? Quand vous offrez une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Alors, vous devriez relire le livre du Lévitique et le livre du Deutéronome. Dans ces chapitres 22 du Lévitique ou dans le chapitre 15 du livre du Deutéronome, vous voyez que l'on devait offrir seulement des animaux purs et sans défaut, et qu'il était bien dit qu'il ne fallait pas apporter une bête aveugle. ou qui avait une infirmité quelconque. C'était écrit noir sur blanc. Tout ça, c'était écrit. Puis qu'est-ce qu'on faisait pourtant? Ben, on apportait pour Dieu ces animaux de notre troupeau. Il y avait peut-être un mâle dans le troupeau, une brebis ou enfin un agneau sans défaut, mais ça on le gardait. Mais pour Dieu, on donnait tout le déchet. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Il n'y a pas plus de mal à faire ceci qu'à faire cela. Enfin, c'est pas mal. Mais non, la notion du bien et du mal, elle se perd. Plus rien n'est mal. C'est vrai ou c'est faux? C'est vraiment nous, ça. N'est-ce pas mal? Parce que on est identifié avec l'offrande. Comprenez-vous? Celui qui offrait une offrande, il s'identifiait à la victime. Alors, une victime aveugle, ça montrait que lui était aveugle spirituellement. Et si j'offre une bête boiteuse, qu'est-ce que ça montre? Que ma marche est boiteuse. Je cloche des deux côtés. Comme le disait Élie, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Ce que vous devez bien comprendre, c'est que nos offrandes, nous sommes identifiés à nos offrandes. Dans notre culte que nous apportons à Dieu, nous sommes toujours identifiés. Offrez votre corps en sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. Alors, si j'offre une bête aveugle, je suis moi-même, comme chrétien, un aveugle, un laodicéen, qui ne sait pas que tu es aveugle. Et j'offre un sacrifice qui... est un sacrifice d'aveugle. Et qui est-ce qui a aveuglé mes pensées? C'est Satan. Le Dieu de ce siècle a aveuglé nos pensées. Et il est dit, les pensées des incrédules. Mais qu'est-ce que nous voyons même chez les chrétiens? L'incrédulité. On ne croit pas à la parole. On ne prend plus la parole à la lettre. Ça veut dire qu'on ne la croit plus. On ne prend pas Dieu au sérieux. Alors, vous allez comprendre vous-même, quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une bête boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Et puis, alors, vous voyez comme ça devient clair, offre-la à ton gouverneur. Quand vous voulez vous faire bien voir de quelqu'un qui est haut placé, qu'est-ce que vous lui faites comme cadeau? Ce qu'il y a de plus beau. Mais essaye d'offrir à ton gouverneur. Alors là, on voit que, je ne sais pas si c'était Néhémie, le gouverneur, ou Zorobabel, mais enfin, au gouverneur, on n'aurait pas offert ça, mais à Dieu, c'est toujours assez bon. C'est pour Dieu. Vous voyez dans quel mépris on tient notre Dieu. On dit qu'on croit en Dieu, mais on ne tremble pas devant lui. J'aime beaucoup la traduction de Chouraki, il est dit, on ne frémit pas devant lui. Il parle du frémissement que l'on doit avoir devant Dieu quand on offre notre offrande. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Je ne pense pas que vous ayez eu des difficultés, vous comprenez ça. Alors, verset 3, ça c'est avec humour, hein. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de vous. Voilà ce que vous faites, hein. Vous m'offrez n'importe quoi, puis après, vous voulez que je vous exauce. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas exaucé? Vous transgressez mes lois, mes ordonnances, puis maintenant, ah, mais vous avez vos réunions de prière, même des nuits de prière. Bah, priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de vous. C'est de vous que cela vient. C'est-à-dire, si je ne vous exauce pas, ça ne vient pas de moi, dit l'Éternel, c'est de vous. C'est vous qui êtes l'obstacle. L'obstacle n'est pas entre le ciel et la terre, il n'y a pas un barrage. Dieu voudrait vous bénir. Mais s'il ne peut pas vous bénir, ça vient de qui? Ça vient de vous, ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne désire qu'une chose, c'est vous bénir. Je vous ai aimé, je vous aime. Mais si vous êtes dans un tel état, eh bien, comprenez que cela vient de vous. Alors, voyons plus loin. Verset 10. Dieu est tellement triste de cela qu'il préférerait quoi? Qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour fermer les portes. Hein? Au lieu de que le temple soit ouvert, je préférerais que quelqu'un, lequel de vous naîtra, fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel. C'est le chapitre premier d'Ésaïe. Multipliez vos sacrifices. Je ne prends pas plaisir à vos offrandes parce qu'elles ne correspondent pas à ce que j'ai demandé. J'aimerais mieux qu'il n'y ait plus de culte. Et voilà pourquoi. Dans tant de nations, il n'y a plus de culte. Vous voulez cela ici au Québec? Oh, maintenant, hein, on est dans la grande euphorie évangélique. Mais demain. Demain. Si on nous ferme les portes du culte, qu'est-ce qui arrivera? Parce qu'il y a trop d'iniquités qui se commettent au nom même de la religion, quelle qu'elle soit. Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Oh, mais nous voyons toutes les autres églises, nous voyons tous les autres. Mais nous, sur notre autel, qu'est-ce que nous offrons? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel. Vous rendez-vous compte? Et en qui Dieu prend-il son plaisir? En son Fils bien-aimé. C'est ici mon Fils bien-aimé en qui je trouve tout mon plaisir. Donc, s'il ne prend pas plaisir en nous, c'est à cause de quoi? Parce qu'il ne voit pas en nous qui? Son Fils bien-aimé. Dieu ne prendra jamais plaisir en moi-même, en ma chair. Hein? Il n'y a pas de bien. Mais s'il peut prendre plaisir en moi, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y trouve son Fils bien-aimé. Comprenez-le. C'est lui qui doit grandir en vous. C'est lui qui doit croître en vous. Il n'est pas question d'un petit salut qu'on aurait compris et puis maintenant on serait sauvé. Il est question du si grand salut de Dieu et que ce salut de Dieu, c'est Christ en nous, qui grandit, qui nous remplit jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alors le Seigneur prendra plaisir en nous. Mais quand il dit « Je ne prends aucun plaisir en vous », c'est un culte formaliste. On a la forme de la piété, mais on en a renié ce qui en fait la force. Les offrandes de votre main ne me sont pas agréables. Et puis alors, ça c'est ce qu'on appelle le présent prophétique, verset 11. Il dit, car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom, et l'on présente des offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations. C'est ce que vous voyez aujourd'hui? Non, vous ne voyez pas ça aujourd'hui. C'est pour ça qu'on parle de cela, comme il y a un passé prophétique dans l'Écriture, avec Ésaïe 53, ici il y a ce qu'on appelle un présent prophétique. Hein? Il en parle au présent, mais il dit, vous savez, vous qui êtes le peuple qui devrait m'adorer, hein? Vous ne le faites pas comme vous le devriez, bien un jour, hein, du soleil levant jusqu'au soleil couchant, mon nom sera grand. Il est déjà grand, parce que pour Dieu, tout est déjà accompli. Tout a été accompli par Jésus-Christ pour qu'un jour il règne sur la terre tout entière. Et un jour, l'encens sera donné à Dieu. Nous croyons au règne de Christ. Ça, c'est vraiment le règne millénaire qui est dépeint dans ce verset 11e. En tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom. Oh, que je me réjouis de ce triomphe du Seigneur. Verset 12. Mais vous dans le temps présent, maintenant, vous qui devriez être un exemple, vous le profanez mon nom. Il est dit que c'est à cause des chrétiens, bien souvent, que que le monde ne peut pas croire. Comment voulez-vous que les musulmans croient quand on a encore ce péché qu'on n'a pas confessé, les croisades où on a exterminé les musulmans? Comment voulez-vous que les juifs croient quand on a accompli au cours de l'histoire de l'Église tant de crimes contre eux? Je pense à l'Inquisition, je pense à l'Holocauste. Alors, nous sommes handicapés par toutes ces iniquités. Nous avons profané le nom du Seigneur. Puis notre culte, qu'est-ce qu'il a? Vous le profanez. En verset 12, vous dites, la table du Seigneur est souillée. Alors là, les sacrificateurs deviennent les premiers responsables. Et puis, ils disent ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Comme c'est triste de penser qu'il y a tant de serviteurs de Dieu, dits de Dieu, qui se plaignent. Et qui trouvent que, au fond, parce qu'un sacrificateur et un lévite, il devait recevoir sa subsistance des offrandes. Il avait une part à ses offrandes. Il avait une part aux offrandes qui étaient faites. Mais voilà, comme nous le verrons ensuite, comme les offrandes n'étaient pas des offrandes pures, ce qui était offert, eh bien, les sacrificateurs trouvaient que c'était méprisable. Mais plutôt que de ne rien offrir, puisqu'ils en avaient quand même une part, ils offraient quand même cela. Ils faisaient des concessions. Ils acceptaient un tas de choses qui ne doivent plus être accepté par des serviteurs de Dieu. Or, nous, les serviteurs de Dieu, nous sommes en train d'accepter n'importe quoi. Et c'est pourquoi il y a un jugement terrible qui va fondre sur ceux qui sont au service du Seigneur et peut-être sur moi-même le premier. Souvenez-vous de Moïse, qui n'a pas honoré Dieu devant le peuple et ce qui lui est arrivé. Nous devrions trembler au lieu de penser que, ah, pourvu qu'on soit serviteur de Dieu, vous êtes tous au service du Seigneur. Là où vous êtes. Les femmes qui ont des enfants sont des femmes plein temps au service du Seigneur quand elles élèvent leurs enfants dans la crainte du Seigneur. C'est votre service plein temps, chère sœur. Dans votre cuisine aussi, dans vos soins domestiques, n'enviez pas celles qui prêchent. Si Dieu a appelé une femme à prêcher, c'est son affaire. Mais s'il vous a appelé dans une tâche qui vous paraît plus humble, soyez consciente que vous êtes au service du Seigneur et que c'est le Seigneur qui viendra manger à votre table avec vos enfants. Alors, votre vie sera illuminée, sera transformée. Vous n'irez pas trouver le Seigneur seulement dans les réunions, mais vous saurez que le Seigneur vous trouve dans votre cuisine, vous trouve dans votre chambre à coucher, vous trouve partout où vous êtes occupé dans les choses les plus matérielles. Et il n'y a pas que les serviteurs de Dieu qui doivent vivre par la foi. Celui qui a un salaire vit autant par la foi que celui qui n'a pas de salaire. Il faut autant de foi pour donner une partie de son salaire pour l'œuvre de Dieu qu'il en faut pour s'attendre à Dieu pour recevoir notre subsistance. Le juste vivra de foi. Et c'est quand l'Église aura compris cela, que tous nous sommes au service de Dieu, dans les tâches les plus diverses, quand nous sommes dans les heures de travail tout à fait matérielles, dans le contact peut-être difficile avec des collègues qui ne sont pas croyants, eh bien, si vous êtes ce que vous devez être, le Seigneur va vous aider et va vous bénir. Et quand vous rentrez de cette journée où vous avez cherché à accomplir votre travail pour le Seigneur, ne faites pas de complexe en disant « j'ai pas donné du temps au Seigneur ». Tout votre temps même, et qu'il était donné dans la société, c'était aussi du temps pour le Seigneur. Parce qu'en vous occupant de votre prochain, vous avez accompli la loi de qui ? Du Seigneur. Mais vous deviez vous en occuper comme le Seigneur le voulait. Et quand vous êtes à table, vous rendez grâce au Seigneur pour le repas qu'il vous a donné. Et puis, quand vous avez besoin de repos, vous prenez votre repos en toute conscience, en toute bonne conscience. Et vous dormirez sous le regard du Seigneur. Et il vous donnera aussi la nourriture spirituelle. Mais n'arrivez pas avec ce verset 13. Vous dites, quelle fatigue. J'ai entendu tant de serviteurs de Dieu dire, vous savez, on est crevés. Les serviteurs de Dieu crevés. Pourquoi ? Parce qu'ils sont, ils ont comme patron le Pharaon. Un serviteur de Dieu, il est renouvelé. Il n'est pas crevé. Et il rend ce témoignage que Dieu le renouvelle. Certes, il a des tâches très grandes, mais il ne dit pas tout le temps, quelle fatigue. Vous voyez, c'est dit là. Quelle fatigue, verset 13. Les croyants ne font qu'à se plaindre. Chouraki a dit, quelle corvée. Rendez-vous compte ? Servir le Seigneur, c'est une corvée ? Quelle corvée ! Alors vous comprenez, ça n'attire pas. Vous dites quelle fatigue, et vous le dédaignez. Et cependant, vous voyez comme on est inconséquent, verset 13, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux, infirme, et ce sont les offrandes que vous faites. Vous ne faites que vous plaindre, puis vous acceptez n'importe quoi. Vous n'êtes pas conséquent. Soyez conséquent, réformez-vous. Pourquoi est-ce que vous acceptez ce qui est dérobé, ce qui est boiteux, ce qui est infirme? Vous savez bien, vous les sacrificateurs, qu'on ne doit pas apporter cela. Mais vous laissez tout cela. Vous dites, mais si je dis quelque chose, ils ne viendront plus dans mon église. Les prédicateurs qui ont peur de vider leur église, ils ne sont pas dans le chemin du Seigneur. Il faut peut-être avoir une prédication qui vide l'église pour qu'elle puisse se remplir d'autres personnes qui ne viennent pas à cause de ceux qui sont là. Vous allez dire, c'est des paroles dures. Mais les gens nous observent. Et il a fallu quelquefois qu'une église soit vidée pour qu'elle puisse être remplie. Mais de gens vraiment convertis, de gens nés réellement de nouveau, et non pas des conversions faites dans les réunions d'évangélisation industrielle. Que le Seigneur parle à nos cœurs, que le Seigneur parle à nos consciences, parce qu'il y a un laisser-aller terrible. Et voyez-vous, là, il y a un bilan, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Cependant, donc vous vous plaignez toujours, vous nous envoyez des demandes d'argent à n'en plus finir, vous nous dites que pour que nous n'ayons plus besoin de nous fatiguer, dites à votre banque d'envoyer tous les mois tant, n'est-ce pas ? Vous ne vous en occupez plus. C'est ça le service du Seigneur ? Vous dites, mais on ne peut plus faire autrement, tout le monde le fait. L'Amérique nous a donné quand même un bon exemple. L'Amérique. C'est là que vous allez trouver vos exemples. Vous n'avez plus de contact avec le trône. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux, infirme, et ce sont là les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains ? Dit l'Éternel. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui vous et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Vous dites un mot, ça c'est pas pour nous. Bien, relisez. Dites au Seigneur, fais-moi comprendre ce que tu as voulu dire sur tout cela. Et puis, souvenez-vous que le contact que vous avez eu ce matin, le tête-à-tête, c'était avec qui ?
Je suis un grand roi. C'est ça qu'il nous faut retrouver. La royauté du Seigneur. Mais on en a fait un petit roi. Tellement petit qu'à Noël, on va encore parler du petit Jésus. Il a été petit. Nous pouvons le dire à nos enfants. Hein, mais nous voulons parler à nos enfants d'un grand roi. Il est un grand roi. Il est un grand roi. Je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées. Et mon nom est redoutable parmi les nations. Et on va bientôt le voir, combien son nom est redoutable parmi les nations. Vous n'avez pas à craindre les bombes, la guerre nucléaire et tout cela. Ce n'est pas cela qui doit occuper vos esprits. C'est le grand roi. Nous devons revenir à ce grand roi, frères et sœurs. C'est le cri de tout mon être que moi-même je revienne à ce grand roi. Il m'a aimé. Il vous aime. On va rester là-dessus. Hein. L'affirmation de Dieu, malgré tout ce qu'il nous a montré, il nous dit qu'il nous aime. Mais ce qu'il voudrait, c'est que nous nous débarrassions des choses qui ne lui plaisent pas, parce qu'il voudrait pouvoir nous bénir. Ce qu'il voudrait, lui qui nous aime, parce que ça, il n'y a pas de doute, il nous aime même tel que nous sommes, hein, avec tous nos déficits, avec toutes ces fautes que nous avons là. Mais ces fautes, nous voulons les reconnaître. Nous voulons les confesser. Et nous voulons dire au Seigneur, mais maintenant nous revenons à toi. À moins que vous disiez, parce qu'on le verra ça, en quoi devons-nous revenir? Alors, est-ce qu'on serait si insensible? Seigneur, nous voulons te demander que ta parole, ce matin, puisse pénétrer nos cœurs. Tu nous as aimés et tu nous aimes. Jusque dans l'Apocalypse, les saints peuvent dire à celui qui nous aime. Et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang. Et nous les avons vus, nos péchés. Et nous les voyons encore, mais nous te les confessons. Si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Donne-nous donc de revenir à ta parole. Que ces paroles ne restent pas dans les couvertures du livre, mais qu'elles s'inscrivent dans notre vie. Qu'elle se fixe dans notre sensibilité et que cette parole illumine notre sentier. Et que nous puissions, comme nous le verrons dans la suite, trouver des frères et des sœurs avec lesquels nous puissions nous parler, parler l'un à l'autre, puisque dans le ciel, un livre de souvenirs est écrit dans ces derniers jours pour ceux qui craignent l'Éternel. Et qui pense à son nom. Bénis-nous de ta bénédiction, et que tes bénédictions ne se transforment pas en malédiction à cause de notre désobéissance. C'est le cri de notre cœur, en te demandant de nous bénir dans le repas que nous allons avoir, et de nous préparer pour l'heure qui va suivre en Jésus-Christ. Amen.